Ami de la poésie, bonsoir.
RTL.
Le poème que j'ai choisi de dire pour vous aujourd'hui est de Marguerite Edmond de Valmore.
Très bien, d'accord.
Et s'intitule Je ne sais plus.
La curiosité est un vilain défaut.
Je ne sais plus non plus pourquoi les oiseaux refleurissent au printemps.
Hey, tu t'es gouré là.
C'est pas ça, hein.
Tu t'es gouré, tu l'as dit à l'envers.
Non, mais c'est des images poétiques, vous pouvez pas comprendre.
Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
Ben non, vous pouvez pas comprendre, c'est ça la poésie, on fait ce qu'on veut, on est libre. Vous savez que samedi, c'est le début du printemps des poètes, c'est jusqu'au 23 mars. Et on célèbre dans la curiosité, la poésie, les mots, les émotions, avec notre invité, écrivain Jean-Joseph Julot.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour à vous.
Merci.
Vous êtes aussi un ancien professeur de français. On va raconter les coulisses de ces plus grands poèmes de la langue française. On commence avec un premier poème qu'on a tous plus ou moins appris à l'école. C'est le lac d'Alphonse de Lamartine. Et c'est Jean-Alphonse Richard, la voix de Confidentiel, qui vous le lit.
Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour. Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence, on entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. « Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. »
Extrait du lac de Lamartine, ce poème paru en 1820 avec ce vrai vers très connu « Autant suspend ton vol et vous, heure propice ». Jean-Joseph Julot, de qui s'inspire Lamartine pour l'écrire? Moi je croyais que c'était purement original, une création.
Alors les poètes au 19e siècle se sont dit, ceux du 18e siècle, qui n'étaient pas nombreux d'ailleurs, on a peu écrit, il n'y a pas beaucoup de poètes célèbres au 18e siècle, peut-être André Chénier, mais il a mal fini, vous savez, il a fini décapité, hélas. Et donc au début du 19e siècle, les poètes se disent, on va quand même relire ce qu'ils ont fait, peut-être pour mieux le démonter, peut-être pour mieux le faire, mais il leur en reste quand même quelques petits morceaux. Et Lamartine, eh bien, reprend tout simplement un vers en disant « Autant suspend ton vol et vous, heureux propice ». Il reprend un vers qui a été écrit en 1760 par un poète qui s'appelle Antoine Léonard Thomas, qui a eu son heure de gloire. Donc il reste des petites bribes chez Hugo, si on en trouve, des bribes, des emprunts. C'est pas du plagiat, mais la formule est quand même très belle, « Autant suspend ton vol ».
Oui, autant la faire revivre et la magnifier, c'est ce que Lamartine réussit avec ce poème. On va, avant de raconter les conditions dans lesquelles il l'écrit, qui est Lamartine? De quel milieu vient-il?
C'est un milieu aristocratique très, très, on peut dire aujourd'hui, extrême droite. Hein. Et
ah oui.
Il est né en 1790. Et Lamartine appartient à une famille où on considère Bonaparte, Napoléon, c'est l'usurpateur. C'est celui qui n'a pas à être aux commandes de la France. Et lorsque, en 1812, Lamartine, le jeune Lamartine, est appelé à aller se battre, il aurait fait la retraite de Russie. Mmh. Eh bien, il achète un remplaçant. Quelqu'un va aller se faire tuer à ça. On pouvait faire ça. Si on avait de l'argent, on achetait un remplaçant. Et n'oublions pas que dans cette retraite de Russie, vous avez Henri Bell, qui s'appelle, que l'on connaît mieux sous le nom de Stendhal. Le rouge et le noir. Lui, il était à Smolensk. Il était au Turbin, comme on dit familièrement.
Et Lamartine, un jour d'octobre 1816, tombe malade. Où part-il se soigner? Qu'est-ce qu'il a?
Alors, il le veut du vague à l'âme et puis un petit peu mal au foie. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Julie Charles. Julie Bouchot-Désérette, elle est née à Saint-Domingue.
Mais qui est-elle?
Et c'est une jeune fille qui appartient au monde des planteurs de Saint-Domingue. C'est une jolie créole qui est revenue ruinée en France avec ses parents qui sont morts d'ailleurs. On meurt beaucoup à cette époque-là, jeune et dans des conditions quelquefois tragiques. Et en 1804, près de Tours, elle rencontre, elle a 20 ans, oui, elle a 20 ans, 1804, et elle rencontre un monsieur qui en a 35 de plus qu'elle, et qui est Jacques Charles. Jacques Charles, c'est un scientifique qui a fait voler le premier ballon à hydrogène. Figurez-vous que pour la première fois, il est monté dans un ballon à hydrogène, il s'est élevé à 3000 mètres. Et quand il est descendu, il a dit « j'ai très froid ».
Et donc cette Julie Charles, Alphonse de Lamartine, va la rencontrer, c'est ça, près du lac du Bourget, à Aix-les-Bains, dans cette cure qu'il va faire.
Tout simplement parce qu'elle, hélas, parce qu'elle souffre, elle est atteinte de tuberculose. Elle est atteinte de la phtisie galopante à l'époque, c'est la tuberculose allait très très rapidement.
Et donc ce poème, le lac de Lamartine, c'est en hommage à cet amour, c'est ça, un amour contrarié?
Non, un amour passionné. Ouais. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Et puis, ils vont se retrouver à Paris après ce séjour au bord du lac du Bourget. Et il l'attend en 1817. Elle a promis de revenir, mais elle est déjà très malade, elle est alitée. Et il s'assoit donc sur cette pierre où tu l'as vu s'asseoir, dit-il au lac. Ouais. Et c'est là que commence pour lui ce deuil, un petit peu, parce que c'est le deuil de l'absence. Puis après, c'est le vrai deuil, puisqu'elle s'éteint le 19 décembre. En embrassant un crucifix d'argent qu'elle va faire porter à Alphonse de Lamartine, qui lui embrassera ce crucifix en 1869, le jour de sa mort. C'est très beau, c'est
magnifique.
Très romantique.
C'est magnifique. C'est magnifique. De Lamartine. Et merci beaucoup à Jean-Alphonse Richard. Confidentiel, c'est tous les samedis sur RTL à 13h30 et en podcast aussi.
Mais laissez-moi maintenant vous déclamer ces quelques vers de poésie que j'ai appris par cœur.
Sidonie Bonnec. Thomas Hugues.
Et laissez-moi d'abord vous déclamer ces quelques vers de poésie que j'ai appris par cœur. Théâtre, tu nous fais rêver. Chut. Arrêtez. Théâtre, tu nous fais rêver. Théâtre, tu nous fais pleurer.
Les curieux sont sur RTL.
C'est un kiff, c'est un rock, c'est un pax, c'est une kippa. Qu'est-ce que c'est ? C'est une libellule. J'entends la troupe des saltimbanques qui arrive au loin.
Thomas VDB qui réinvente les grands textes de la poésie et de la littérature française. Évidemment, la poésie, ça fait marrer les humoristes et leur public. Et nous, on célèbre le printemps des poètes avec notre invité Jean-Joseph Julot. Vous êtes écrivain et vous publiez une anthologie de la poésie française chez First. On va maintenant s'offrir Verlaine, Le ciel est par-dessus le toit. Et c'est Caroline Dublanche qui nous le déclame.
Le ciel est par-dessus le toit. Si bleu, si calme, un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche, dans le ciel qu'on voit, doucement teinte. Un oiseau, sur l'arbre qu'on voit, chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse ? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà ? De ta jeunesse.
Merci à Caroline Dublanche qu'on retrouve tous les soirs sur RTL à 22h, évidemment. Jean-Joseph Julot, c'est une histoire d'amour à trois peut-être qu'on peut raconter maintenant. Et il faut commencer par dire que dans la vie de Verlaine débarque un jour Arthur Rimbaud. Comment ça se passe ?
Ça se passe mal. Au départ, pendant leur correspondance, tout se passe bien, parce que Verlaine trouve que Rimbaud a du génie, et puis Rimbaud trouve que Verlaine a de l'audace.
Ils sont amis à ce moment-là.
Ils sont amis de façon épistolaire. Et Rimbaud débarque à Paris, chez les parents de la femme, chez les beaux-parents de Verlaine, et là, ça se passe très mal. Parce que Rimbaud est quand même quelqu'un de très bizarre. Il s'assoit en mettant ses chaussures sur la table, il renverse ce qui le dérange, enfin bref, il a un comportement plutôt atypique. Et c'est ce comportement-là, vous avez entendu, ce poème est très très doux. Oui. Et pourtant, mais quels enragés ces deux-là, Rimbaud et Verlaine, des enragés de la vie. Ils sont tous sans cesse en fugue, ils sont partis, Verlaine a quitté son ménage pour partir avec Rimbaud en Angleterre. Ils vont revenir en Belgique, retourner en Angleterre, revenir encore. Et puis là, ça se passe mal, puisque cette idylle qu'ils ont nouée, cette relation passionnée, eh bien, va se terminer à Bruxelles. À Bruxelles, disons que pour faire la chronologie, ils se rencontrent en septembre 71, 1871. Ouais. En 1872, ce sont deux enragés, comme je le disais, ouais, qui font les 400 coups. Et puis, en 1873, eh bien là, ils se séparent. Et ça, la séparation se passe mal. Verlaine vient à Bruxelles, Rimbaud vient les rejoindre, et comme Verlaine comprend que finalement Rimbaud va s'en aller et que c'est irrémédiable, eh bien, un matin, parce que Verlaine quand même était très très porté sur la bouteille, eh bien il s'en va faire le plein, si vous voulez, hein, et à midi, il arrive après avoir acheté un pistolet, il entre dans la chambre où se trouve Rimbaud, et lui dit, tiens, puisque tu veux t'en aller, voilà. Il tire deux coups,
il tire deux balles,
enfin, il était ivre, alors il a voulu d'abord se tirer les deux balles dans la tête, et puis il a retourné le pistolet, les deux coups sont partis, et le bras de Rimbaud donc a été traversé par les deux balles, il a été arrêté, il a été mis en prison.
Combien d'années de prison pour
Verlaine ? Il a fait deux ans, il a été libéré pour bonne conduite, et c'est là qu'il écrit.
Mais il est joyeux ce poème, le ciel est par-dessus le toit, ça veut dire que c'est le poème de la rédemption ?
Oui, c'est-à-dire qu'il a expliqué lui-même, que là, il a pris conscience de tout ce qui s'était passé, et il voit, il regarde par la fenêtre, et c'est exactement ce qu'il décrit, le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme, un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Mais c'est très très simple, il dit tout ce qui finalement est facile à vivre quand on regarde des choses de façon simple.
Alors on parle beaucoup, il y a beaucoup de poèmes d'hommes et aussi des poèmes de femmes, et moi j'ai un coup de cœur pour une poète qui s'appelle Alicia Gallienne. Elle est décédée en 1990 à l'âge de 20 ans, et écoutez ce poème, elle l'écrit pour son frère Eric qui est mort lui quelques années avant, quand elle avait 7 ans, mort du même mal qui va l'emporter, elle, un 24 décembre. Écoutez. Ne touchez pas à ma petite bête épaisse, ma douleur. Ne touchez pas aux plus beaux yeux du monde que j'ai fermés longtemps pour ne plus les voir. À toi, goutte de sang qui manque un jour dans le corps infirme et langoureux de la vie. À toi, tout ce qui ressemble à l'innocence, ces mots à déplier au vent comme un mouchoir de larmes sèches. Ne touchez plus à mon enfant perdu. Il est quelque part implorant le silence. Si seulement ta mort ne m'était qu'une seconde. À toi ces cris que je ne peux pas pleurer vraiment. À toi qui jouais jadis avec mes doigts comme avec des bonbons tendres de l'enfance à genoux. Ne secouez plus mon arbre de ses mains pour monter au ciel. La nuit, il y vient des oiseaux inconnus qui portent dans leurs ailes des bruissements de la terre. Vous comprenez, il y vient des oiseaux. Ne touchez pas à l'infini moins un que j'aime. À toi mon caillou, ma pièce d'or de la fontaine, ce qui brille dans le puits de boue. À toi ma blessure enivrée, ma lune à boire. Ne touchez plus à notre reflet pour les enfants heureux. Tu es la morsure au creux de ma main. Dormons. Et le recueil d'Alicia Gallienne se nomme « L'autre moitié du songe m'appartient ». Ce sont vraiment beaucoup de poèmes magnifiques qu'elle a écrits en seulement quelques années. Et c'est paru chez Gallimard. Voilà, c'était mon coup de cœur poésie.
Et c'est mérité, évidemment. Jean-Joseph Julot, on peut dire un mot de cette poétesse. Son histoire est édifiante, elle aussi.
Son histoire est assez étonnante et elle a senti, je suis en train de lire ce recueil avec des textes magnifiques, elle a cette prescience que sa vie est en jeu à chaque fois qu'elle écrit une ligne. C'est ce qui lui donne cette densité, ce côté esthétique aussi, et comme si elle était toujours sur le quai du départ. Alors elle était passionnée par Paul Éluard, on sent cette couleur Éluard, et je voudrais ajouter aussi que vous me parliez tout à l'heure des poètes femmes, il y a des poètes aujourd'hui, des poétesses aujourd'hui qui publient, par exemple Cécile Coulon, qui a eu le prix Apollinaire c'est l'année dernière, ou il y a deux ans me semble-t-il, qui est une jeune poétesse qui a 27 ans, qui écrit des romans passionnants et qui sait bien tirer son épingle du jeu dans la poésie. Au 19e siècle, vous avez Marceline Desbordes-Valmore, que Baudelaire déclare, mais la plus grande, il a une admiration fervente pour Marceline Desbordes-Valmore, de même que Louis Aragon aussi. Vous voyez, les hommes ont été passionnés par des poétesses et je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas une grande place. Enfin, il faut dire qu'il y a une chose, quand on me dit il n'y a pas beaucoup de poétesses dans la littérature, je me dis, mais regardez les poèmes. Ils sont tous adressés à des femmes, quasiment. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, nous dit Verlaine, d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime.
Et ces poèmes, on les retrouve dans votre anthologie de la poésie française, Jean-Joseph Julot.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêche de marcher.
L'albatros de Charles Baudelaire, lu par Alba Ventura dans La Curiosité. On vous raconte les coulisses, les secrets de ses plus grands poèmes, de ceux que vous avez adorés, qui sont encore, que vous connaissez par cœur ou alors vous avez encore quelques bribes comme ça. Et nous sommes avec l'écrivain Jean-Joseph Julot. Avec vous, c'est un voyage dans ses poèmes. Et cette histoire de l'albatros, poème paru en 1857, cet albatros, cet oiseau, Charles Baudelaire l'a vu souffrir. À quelle occasion ?
À quelle occasion ? Eh bien, disons que Charles Baudelaire, qui a eu pour père naturel, un ancien prêtre défroqué de la Révolution, qui l'a rendu heureux lorsque de sa naissance en 1821 ouais. à Charles Baudelaire jusqu'à 1827. 1827, son père meurt et sa mère, Caroline Dufay, se remarie avec un militaire, celui qui a fait les campagnes napoléoniennes et qui veut faire de Charles Baudelaire un polytechnicien. Il veut en faire un scientifique et le petit Baudelaire, lui, a beaucoup de sensibilité. Au début, tout se passe bien avec le commandant au pic. Et puis, peu à peu, les choses se gâtent. Et c'est au point qu'un jour, alors que, en petit comité, ils sont réunis autour d'une table, eh bien, le commandant au pic, qui a l'habitude de se moquer de Charles, lui fait encore une remarque ironique. Charles se lève et dit « Monsieur, vous m'humiliez toujours en compagnie. Je vais avoir l'honneur de vous étrangler. » Il se lève, il saisit son beau-père à la gorge, il le met par terre, il y a une confusion et honteuse. Et donc, voilà, ça se termine comme ça. On n'en parle pas, mais on décide d'envoyer Charles aux Indes pour lui apprendre un peu la vie. Alors, il va s'embarquer en 1841 sur le paquebot des mers du Sud à Bordeaux. Et il s'en va, et dans l'hémisphère sud, que se passe-t-il ? On voit des albatros, qui sont des oiseaux qui font jusqu'à 3 mètres d'envergure. Oui. Et là, les marins, que font-ils ? Ben, ils s'amusent. Ils s'amusent à lancer une toile sur laquelle il y a du lard avec un hameçon. Et la toile va sur l'eau et on pêche l'albatros. L'albatros qui est vorace, se rue sur la viande, en quelque sorte. Et puis, on le fait venir sur le pont. Baudelaire voit les marins qui s'amusent avec l'albatros, qu'ils vont tuer, qu'ils vont exterminer pour en faire des rillettes. Et là, il s'approche et il bourre de coups de poing les marins. Baudelaire n'était
c'est
pas...
un caractère, Baudelaire. Oui,
d'ailleurs, il était insupportable sur le bateau. D'ailleurs, ouais. Il n'ira pas jusqu'aux Indes. Le capitaine va dire, on en a assez de Baudelaire, on le renvoie. Oui. Donc là, il bourre de coups de poing les marins, qui lui rendent généreusement la monnaie. Il s'en va dans sa cabine et là, il commence, il esquisse, il écrit le poème L'Albatros, où il se compare, le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit des larchers, exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Magnifique.
Voilà. Quel bonheur d'entendre ces vers qui ont bercé notre enfance. Et moi, j'avoue que je continue de lire des poésies, notamment celles que l'on va découvrir maintenant, poème bouleversant d'un père à sa fille disparue, Victor Hugo, qui écrit Demain dès l'aube, et c'est Stéphane Bern qui nous le lit.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs.
Jean-Joseph Julot, que découvre Victor Hugo alors qu'il est en voyage avec sa maîtresse, Juliette Drouet? Ils font une halte comme ça à l'auberge. Et dans une auberge, on est le 5 septembre 1843 et... il attrape un journal.
Café de l'Europe, place Colbert à Rochefort. Juliette Drouet, sa maîtresse, et lui-même, Victor Hugo, s'assoit. Et puis, un petit peu en retrait, ils se font servir un verre de bière. C'est Juliette Drouet qui raconte ça. Elle tenait méticuleusement son journal. Et là, Victor Hugo prend un journal, l'ouvre et regarde les nouvelles. Et là, il devient livide. Il apprend que le 4 septembre, n'oubliez pas que nous sommes le 9, que le 4 septembre 1843, donc cette année, où voilà le journal, sa fille, Léopoldine, qui avait embarqué sur un canot de course avec son mari, Charles Vacry, avec Pierre le fils aussi de l'oncle François Vacry, le vent a fait chavirer le bateau d'une façon complètement inattendue.
Sur la Seine,
à Villequier, dans une boucle de la Seine à Villequier, c'est entre Le Havre et Rouen. Mmh. Et là, le voyage s'était très très bien passé. Le capitaine du bateau, Vacry, est un marin qui connaît son métier depuis longtemps. Et là, que s'est-il passé ? Il y a eu un tourbillon. On a parlé du mascara, on a parlé d'autre chose, mais c'est un tourbillon qui a pris la voile, qui était beaucoup trop tendue, et qui a fait se retourner le bateau. Léopoldine ne savait pas nager. Son mari était un excellent nageur, Charles Vacry. Le bateau retournait, eh bien,
il va tenter de la sauver.
Il va tenter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. La sixième fois, il va se laisser couler volontairement. Il va mourir avec Léopoldine. Des paysans qui sont en face, dans un champ, se disent « ils sont en train de jouer ». Ils ne jouent pas, ils sont en train de mourir. Et Victor Hugo découvre cela 5 jours après. Et dans le journal, il est annoncé que les obsèques ont eu lieu. Vous imaginez la douleur du père. Il sera 5 ans sans écrire. C'est quelque chose d'épouvantable. Ça va le poursuivre toute sa vie. Demain, dès l'aube, c'est un poème bouleversant.
Merci beaucoup, merci. Jean-Joseph Julot. C'est un bonheur de vous avoir au micro de merci. La Curiosité. Vous publiez, pour prolonger ce plaisir d'antenne, Anthologie de la poésie française, c'est chez First. Et c'est illustré par Pierre Fouillet. Et puis, il y a le début du printemps des poètes. Il y aura plein d'événements
c'est
dans vos villes.
Jusqu'au 23 mars,
oui, exactement. Avec, comme marraine, Sandrine Bonner.
Merci, Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La Curiosité est un vilain défaut.
RTL.